RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Joaquim Rodriguez sous le déluge. L'Espagnol gagne la 12e étape du Tour de France au plateau de Bay. Chris Froome a tranquillement contrôlé tout ça avec son maillot jaune sur les épaules. Ses équipiers de l'Alska y font le boulot et ses adversaires n'arrivent pas à mener leurs attaques jusqu'au bout. Cyril Guimard sera avec nous dans une quinzaine de minutes. Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga en piste. Ce sont eux qui vont disputer les deux premiers simples de Coupe Davis contre la Grande-Bretagne demain. Richard Gasquet, lui, devrait être aligné en double avec Nicolas Mahut samedi. C'est l'équipe de France la plus cool du monde. Paraît-il, l'équipe de France de volley ne s'arrête plus que des victoires cette année. On sera tout à l'heure en ligne avec Kevin Leroux depuis Rio. L'homme le plus rapide d'Europe, c'est lui. Jimmy Vico sera notre invité à 20h30, la veille du meeting d'athlétisme de Monaco avec un 100 mètres explosif en perspective, notamment face à Justin Gatlin. Le foot nous fait voyager. Aujourd'hui, l'OM est à Sousse pour disputer un match amical contre l'Étoile du Sahel. Trois semaines après l'attentat meurtrier dans cette station balnéaire tunisienne, le PSG, lui, est arrivé aux États-Unis, Paris loves US. Les Parisiens sont en tournée américaine. On va dérouler l'actu sport avec Guillaume Laniel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Et on va tout de suite commencer avec la 12e étape du Tour de France. Le plateau de Bay a livré son verdict.
Oui, et c'est l'Espagnol Joaquim Rodriguez qui s'impose pour la deuxième fois dans cette grande boucle. On retrouve sans plus tarder sur les routes du Tour de France Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Salut Guillaume.
Et dans des conditions dantesques, Rodriguez a été opportuniste. Froome sous contrôle aujourd'hui.
Exactement. Pourito Rodriguez pour commencer par lui évidemment. Le grimpeur espagnol, deuxième victoire d'étape sur les routes de ce Tour de France qui aujourd'hui est parti de loin en compagnie d'un groupe de 22 coureurs et dans la dernière ascension alors que petit à petit les uns après les autres tout le monde lâchait, eh bien Pourito a attaqué et a lâché ses deux derniers compagnons d'échappée, Fuxang et Romain Bardet, revenant aujourd'hui après deux journées terribles pour le jeune coureur français qui avait terminé sixième du dernier Tour de France, mais il n'a pas réussi à prendre la route de Rodriguez dont on sait qu'il est l'un des punchers en montagne les plus redoutables du peloton. Rodriguez qui s'impose, Fuglsang termine deuxième et Romain Bardet troisième. La bagarre ensuite évidemment dans le groupe maillot jaune, une bagarre car on pouvait en douter aujourd'hui et il a fallu attendre les derniers kilomètres, l'ascension du plateau de Bay pour voir les adversaires de Chris Froome un à un tenter de mettre à mal la domination du Britannique, mais celui-ci protégé par deux coéquipiers, Geraint Thomas et Richie Porte, a réussi à répondre aux attaques de Contador, de Nibali puis de Quintana avant de lui-même lancer une attaque qui n'a pas fait grand-chose finalement à l'arrivée. Eh bien, Chris Froome conserve son maillot jaune avec toujours 2 minutes 52 d'avance sur Van Garderen et 3,09 sur Quintana. Les Français sont un peu plus loin en général. Galopin et Barguil qui perdent quelques places et quelques secondes. Galopin ce soir 8e à 7 minutes 32 et Warren Barguil 11e à 9,43. Mais la bonne nouvelle, c'est que Bardet et Thibaut Pinot ont retrouvé des jambes. On espère les voir en troisième semaine dans les Alpes.
Merci beaucoup Christophe. Et tu en parlais de Romain Bardet, premier Français sur cette étape. Il termine 3e à 1,49 du vainqueur du jour. Le coureur d'AG2R est ravi d'avoir retrouvé des sensations.
Je reviens de loin, voilà, je retrouve un petit peu la santé, des couleurs, tout l'équipage de l'arrivée mondiale retrouve des couleurs. C'était important de prendre les choses dans le bon sens aujourd'hui après une journée catastrophière. Là je connais, ça fait 4 ans que je suis professionnel, je connais mon plus gros échec pour l'instant sur le Tour de France et ça va pas passer de tout noir à tout blanc en un trait de temps. Il faut se reconstruire tout doucement. J'en ai pris un gros coup au moral. J'en ai pour jouer un top 5 ici. Et, voilà, comme je le disais, j'ai du mal à suivre le peloton. Donc voilà, je reprends des couleurs petit à petit et ça fait du bien au moral et ça fait faire du bien à toute l'équipe. Ça va nous remettre sur le bon chemin avant la semaine alpestre.
Voilà, optimiste Romain Bardet au micro de Pierre-Yves Leroux. On en parlait avec Christophe Cessieux, effectivement, joli tir groupé des Français. Un 5 Français dans les 20 sur cette 12e étape. Thomas Voeckler lui termine 45e, un petit peu plus de 18 minutes. Thomas Voeckler.
Les jambes, ça allait. Après, c'est vrai qu'avec la météo, c'est un peu compliqué. Dans la même journée, là, on est parti à 35 degrés à l'ombre. Pas du tout équipé pour la pluie. Donc, on a sorti les matières les plus légères possibles au départ ce matin. Et là, je me retrouve avec deux caouets, des gants longs et des jambières. Mais bon, on était bien représentés dans l'échappée. C'est Pierrot a dû suivre bien le rythme, je pense. Donc, c'est une bonne journée pour nous.
Voilà, une bonne course pour Europcar. Et puis en marge du tour, Virginie accueille poli, on va dire, pour Lance Armstrong qui parcourait 24 heures avant le peloton l'étape de demain. Et puis sachez que l'opération d'Ivan Basso s'est bien déroulée à Milan. L'Italien qui a abandonné, on vous le rappelle, lundi après avoir annoncé qu'il souffrait d'une tumeur au testicule.
Le Tour de France, on y revient dans une dizaine de minutes avec Cyril Guimard. Le tennis, le quart de finale de Coupe Davis, Grande-Bretagne, France, c'est à partir de demain. Le capitaine des Bleus, Arnaud Clément, a tranché avant le début de la rencontre.
Ça y est, enfin, on sait, il y avait pas mal de combinaisons possibles, c'était pas facile de savoir. Ce sera donc Gilles Simon, quart finaliste à Wimbledon, et Tsonga qui joueront les simples demain respectivement face à Ward et face à Andy Murray. Et puis en double, Richard Gasquet sera associé à Nicolas Mahut. Eric Célio est avec nous de Londres. Salut Eric.
Salut.
Des enseignements à tirer évidemment de cette liste. La première chose qui peut interpeller, c'est l'absence en simple de Gasquet quelques jours après sa demi-finale à Wimbledon.
Ouais, mais il faut croire que son étonnant parcours, enfin son joli parcours pardon, à Wimbledon avait laissé quelques traces sur le plan physique. C'est vrai qu'on avait observé qu'il avait redébuté l'entraînement de manière assez molle. Et Arnaud Clément nous a indiqué aussi qu'il attendait un feu vert médical, donc ce qui sous-entend des petits bobos au pied et aussi à l'épaule. Et donc je pense qu'Arnaud Clément n'a pas voulu prendre de risque, il a préféré deux guerriers à 100%, donc le numéro 1, hein, si vous ATP, Gilles Simon, et derrière Joe ou Wilfried Tsonga. Le problème, c'est que Tsonga va s'attaquer dès demain à Andy Murray, et comme on sait que c'est lui qui doit jouer le double samedi, ça peut poser un problème si jamais Joe, par exemple, joue 5-7, qui se termine à 18-19 heures. Donc, en termes de récupération, c'est pas un bon tirage pour les Français. Maintenant, Richard Gasquet nous a confirmé qu'il était prêt à aller au combat, plus vraisemblablement dimanche pour les simples. Mais à ce moment-là, où en sera l'équipe de France, c'est la grande question. Parce que c'est vrai que Arnaud Clément a annoncé une paire Mahut-Gasquet, mais bon, c'est du bluff. Hein, c'est du bluff. La paire qui doit jouer, c'est Tsonga Mahut. Maintenant, tout dépendra du déroulement des matchs de demain, et notamment du scénario Tsonga Murray qui s'annonce vraiment un match très costaud, très dur à aller chercher. Mais c'est un défi à la mesure d'un Tsonga qui, lui, a pu bénéficier d'une certaine fraîcheur après Wimbledon.
On va reparler des choix d'Arnaud Clément avec Sarah Pitkovski à 18h30. Le foot maintenant, la suite du conflit entre la Ligue et les clubs de Ligue 2.
Oui, au siège de la 3F, le président Noël Le Graët a reçu 5 présidents de Ligue 2, tous révoltés par l'instauration la saison prochaine, on en a beaucoup parlé, des 2 montées et 2 descentes. Qu'en est-il ressorti? Je vous propose d'écouter la réaction de Claude Michy, le président du club de Clermont.
La fédération va exercer son pouvoir en faisant étudier au prochain comité exécutif la décision du conseil d'administration de la Ligue. On a été accueillis par le président de la fédération qui a bien pris conscience de l'intérêt pour le football de remettre la situation peut-être plus claire et moins agitée. La certitude que l'on a, c'est qu'on va aller en référé pour défendre cette position. Donc il y aura une action au niveau juridictionnel et il y a une action faite par le pouvoir sportif et par la fédération.
Claude Michy au micro de Camille Gelpi et Loïc Lefort.
RMC, le Mercato Show.
Les infos Mercato aujourd'hui, ce jeudi avec Damien Grosseuse. Salut Damien.
Salut Guillaume.
Et on commence avec Mevlut Erding qui va quitter Saint-Etienne.
L'attaquant est tombé d'accord avec Hanovre et va s'engager aujourd'hui pour 3 saisons avec le club de Bundesliga. Saint-Etienne va toucher 3 500 000 euros grâce à ce transfert. Benjamin Stambouli, lui, n'est pas encore au Paris Saint-Germain. La première offre du PSG pour Tottenham, 7 millions d'euros, a été rejetée. Paris devra en faire une nouvelle alors que Stambouli est toujours en discussion avec Watford. Et puis en Ligue 1 toujours, Ibrahim Amadou est en train de passer sa visite médicale à Lille. L'ancien milieu de terrain de Nancy pourrait rejoindre le LOSC contre 2 millions d'euros. Jordan Amavi devrait lui quitter la Ligue 1 et Nice, puisque son club et Aston Villa sont tombés d'accord sur le transfert du latéral gauche pour 15 millions d'euros. Il va découvrir la première ligue et croisera peut-être la route de Younes Kaboul, le défenseur qui évolue à Tottenham et sur le point de rejoindre Sunderland où il passe sa visite médicale lui aussi. Enfin, une information concernant le brésilien Robinho. L'attaquant vient de s'engager pour un prêt de 6 mois en faveur du club chinois de Guangzhou. Il retrouvera l'ancien sélectionneur de la Seleção, Luis Felipe Scolari.
Superbe challenge sportif pour Robinho, hein, à 31 ans. Merci Damien, toutes les infos transferts à retrouver sur rmcsport.fr. Damien, on te retrouvera d'ailleurs ce soir pour la demi-finale de l'Euro des moins de 19 ans. La France elle défie l'Espagne. Enfin, le Paris Saint-Germain, elle, sachez-le, a participé à sa première séance d'entraînement dans le New Jersey.
RMC France Olympique.
Et on part maintenant à Moscou. C'était la 3e journée des championnats du monde d'escrime.
Événement que suit Rodolphe Massé pour RMC. Salut Rodolphe.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Pas de 3e médaille malheureusement pour l'équipe de France. On va dire que ce jeudi, le fleuret français a été à son niveau.
Oui, c'est cela. On n'attendait pas vraiment d'exploit aujourd'hui de la part des fleurettistes garçons et filles de l'équipe de France. Alors, il y a eu des déceptions. L'élimination dès le premier tour d'Erwan Lepechou, par exemple. Mais voir un Français et une Française chacun rallier les quarts de finale, c'est déjà un bon résultat en soi. Alors, chez les garçons, c'est Jérémy Cadeau qui est allé en quart de finale où il a été surclassé par un Russe vice-champion du monde en 2013. Une défaite 15 touches à 7. Et puis, chez les dames, là, c'est passé tout près d'une médaille. Pour Isaora Tibus, 23 ans, elle avait face à elle une Américaine de 22 ans, Prescott, et la Française, eh bien, s'est inclinée 15 touches à 14. C'est forcément le scénario le plus cruel. Isaora Tibus, une heure après sa défaite, vous allez l'entendre, elle avait du mal à s'en remettre.
Je pense qu'avec du recul, je serais contente parce que c'est mon premier quart de finale en championnat du monde. C'est vrai que c'était à une touche, donc c'est vraiment frustrant. Et pour l'instant, je suis un peu triste et je me dis que j'aurais pu aussi la mettre, quoi.
En tout cas, à partir de demain vont débuter les épreuves par équipe avec des chances de médaille. Enfin, surtout chez les filles qui se sont qualifiées aujourd'hui. Elles débuteront en sabre par équipe contre la Pologne en quart de finale. Les garçons, eux, les sabreurs, ont passé deux tours aujourd'hui. Mais demain, en quart de finale, ils affronteront les champions olympiques coréens.
Merci Rodolphe, RMC, radio officielle de l'équipe de France olympique.
En rugby, le groupe France continue à se préparer pour la Coupe du Monde, mais maintenant c'est à la montagne, c'est à Tignes.
En altitude, Virginie, ça fait du bien pour les Bleus, avec cette préparation toujours axée sur un gros travail physique. Les Bleus ont eu droit ce jeudi à un réveil musculaire, puis en alternance de la musculation et du jeu. Le sélectionneur des Bleus, Philippe Saint-André, nous explique les enjeux de ce stage. Il est au micro de Laurent Desprez.
Le but, c'est de vous surprendre pendant la Coupe du Monde, c'est ça le but. Bien sûr qu'on ne veut pas rentrer dans de la routine, donc automatiquement on change beaucoup les doses d'entraînement, les activités pour surprendre les joueurs, pour que ça soit pas routinier, pour qu'ils, bien sûr qu'ils en bavent et heureusement, mais qu'ils prennent aussi du plaisir et que ça soit différent en permanence.
Voilà, Philippe Saint-André à Tignes en ce moment avec le groupe France. Rapidement, en golf, le British Open a débuté. L'Américain Dustin Johnson est en tête. Premier Français, Romain Langasque, 20e. Victor Dubuisson et Tiger Woods sont en grande difficulté. Enfin, en athlétisme, pas de mondiaux. Virginie, on l'a appris aujourd'hui, fin août, pour Valentin Lavilloni, le petit frère de qui vous savez. S'est fracturé le 4e et 5e métatarse de la main gauche. Voilà, absent pour Pékin, fin août.
Merci Guillaume, à tout à l'heure,
à
19h. On va retrouver Cyril Guimard au plateau de Baye dans quelques instants. Avant ça, je vais vous remercier au nom de tout RMC Sport. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à écouter les programmes d'RMC de 16h à minuit, les programmes sport. 1 800 000, vous êtes chaque jour. C'est 200 000 de plus qu'il y a un an, d'après le dernier sondage Médiamétrie. Merci à tous pour votre fidélité. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h19, l'intégral tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. J'ai l'impression d'entendre floc floc. Cyril Guimard, bonsoir.
Oui, effectivement, ça fait floc floc dans les chaussures, mais comme on est tous en sandalettes, ça fait floc floc dans les dans les sandalettes, tout simplement. On a les doigts de pied au frein, et il y en a même qui n'ont pas que les doigts de pied au frein, parce que c'est ceux qui étaient sur la ligne d'arrivée à interviewer. J'ai parlé de Pierre-Yves Leroux,
mais
également notre petit Colombien sur sa moto, il est arrivé bien trempé.
J'imagine, les coureurs aussi, il faut bien le dire. Ça n'a pas empêché donc Joaquim Rodriguez de s'imposer, sa première victoire dans une vraie étape de montagne.
Oui, il avait déjà remporté
la troisième
étape au sommet du mur de Huy, mais que j'ai presque envie de dire c'est son vrai terrain de jeu, le mur de Huy. Pratiquement toutes les courses qui arrivent dans ce style d'arrivée, il va chercher la victoire sur une grande étape de montagne. Non, ça ne lui était pas encore arrivé. Eh bien, il a comblé cette lacune en partant dans une échappée de loin dès le 25e kilomètre et en gérant très bien son effort, très bien l'échappée aussi. Et dans cette dernière ascension, il s'est envolé seul, lâchant malheureusement pour nous Romain Bardet qui était avec lui, avec Fuglsang. Ce sera d'ailleurs le podium, hein, sauf qu'il n'est pas dans le bon sens pour les Français, puisque Rodriguez s'est envolé vers la victoire. Fuglsang terminera deuxième et Romain Bardet troisième à 1 minute 40.
Oui, mais quand même, ça fait du bien de le voir remonter la pente.
Voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est que comme d'autres Français d'ailleurs, hein, on l'a trouvé, il a eu ses deux premières étapes des Pyrénées qui ont été très très difficiles. On avait senti qu'il frétillait un tout petit peu mieux en fin d'étape hier. Et aujourd'hui, eh bien, il a décidé de se lancer dans la grande bagarre avec Michael Schérel, son équipier également. Et puis, eh bien, tant mieux. Mais il va quand même manquer un petit quelque chose, car sur son véritable niveau, la victoire, il aurait pu aller la chercher aujourd'hui.
Alors Cyril, j'aimerais bien qu'on parle maintenant un peu du groupe Maillot Jaune. Est-ce que c'était des vraies attaques? Est-ce que c'était des fausses attaques? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Quintana essayer, on a vu Valverde essayer, et puis à chaque fois ça échoue. Pourquoi ils sont pas assez forts?
On peut se poser la question sous cet angle-là, oui. Ou alors, il y a un moment lorsque on porte... J'ai plus envie de dire...
On va retrouver Cyril Guimard. Aller, ouais.
Parce que lorsqu'on regarde le graphique de cette ascension, on s'aperçoit que les parties les plus pentues sont dans la première moitié et que la deuxième moitié progressivement perd énormément de pourcentage pour finir d'ailleurs sur des pourcentages de 4 ou 5 degrés. En plus, on l'a dit, hein, il pleuvait, mais quand il pleut en règle générale, il y a du vent et il y avait un vent qui était plutôt défavorable. Donc il ne fallait pas trop insister sur les attaques seules tant que le maillot jaune avait encore deux équipiers avec lui, ou quand il en avait encore un seul. Car il faut bien comprendre qu'un coureur qui attaque seul, il s'en va, il prend 50 mètres, il prend 100 mètres. Derrière, ce n'est pas le maillot jaune qui roule sur lui, c'est un équipier du maillot jaune. Si vous durez trop longtemps devant, vous allez lâcher des cartouches, parce que à la vitesse où ça monte sur les faux plats qui nous amenaient ici sur la ligne d'arrivée, lorsque vous êtes dans l'aspiration de votre équipier, vous avez pratiquement 25, comme ça va, ça roule qu'à 30-35, vous avez à peu près, allez, on va dire 25 à 30% d'effort en moins. C'est-à-dire que si on va vous chercher, alors à ce moment-là, le maillot jaune, il vous contre, et puis vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc, ce sont des attaques qui étaient mesurer, dépendrer, mais très vite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien faire contre Froome dans cette ascension.
Contre Froome, mais finalement, Froome, si ça marche aussi bien que ça, c'est surtout grâce à Geraint Thomas et ses équipiers.
Bien oui, mais les grands champions
ont toujours, ça compte, évidemment,
en règle générale, de grands équipiers. Rappelez-vous, l'an dernier, c'était l'équipe Astana avec Nibali. Et Nibali avait deux, trois équipiers qui l'accompagnaient le plus haut possible dans l'école. Et ensuite, lorsqu'il passait à l'attaque, il faisait la différence. Mais gardera-t-il ses équipiers jusqu'au bout? Est-ce que ses équipiers vont avoir peut-être à un moment ou à un autre des défaillances? Parce que pour l'instant, Geraint Thomas, il est là depuis le premier jour. J'ai presque envie de dire, heureusement que c'est pas lui qui a pris le maillot, parce qu'il est presque aussi fort que son
c'est leader. Ça. Alors, soit il a un sens du sacrifice inné, soit c'est vrai que c'est assez étonnant. Il aurait pu prendre le maillot jaune et ensuite lui le leader de l'équipe.
Ça aurait pu, oui. Imaginons un seul instant que dans la première étape de montagne, à la Pierre Saint-Martin, imaginons un seul instant que Froome ait ne serait-ce qu'une crevaison. Mm-hmm. Il pouvait très bien se retrouver avec le maillot.
Oui, et ce ne serait pas un leader ridicule, loin de là. Ce que je me demandais, mais alors c'est peut-être un peu provoque, on va dire, mais est-ce que Quintana, c'est pas un peu le type même de la fausse mode, quoi? J'entends depuis le départ, Quintana, il va être super fort. Et puis finalement, il y a des petites attaques comme ça. Et puis, j'entends aussi, c'est lui le meilleur grimpeur, faut attendre. Mais non, le meilleur grimpeur, c'est pas lui, quoi. Pour l'instant, c'est Chris Froome, c'est Geraint Thomas, peut-être, mais c'est pas lui.
Ah. C'est exact.
On t'avait perdu, Cyril.
Le meilleur grimpeur, c'est celui qui porte le maillot jaune, dans la mesure en plus où il est allé chercher au sommet d'un col. Hier, on n'a pas pu le mettre en difficulté. Aujourd'hui, quelques banderilles, mais personne n'a pu faire la différence. Comme je te dis, c'était pas un col pour faire une véritable différence. Mais pour l'instant, celui qui grimpe le mieux, c'est Froome. Alors attendons les Alpes et espérons que dans les Alpes, le petit Colombien là, il se refasse une petite santé et puis que Froome il broute un petit peu.
Juste un petit mot sur Jean-Christophe Perrault qui était en détresse totale là aussi. Comment on a l'impression qu'il a plus les jambes du tout là.
Oui, alors Bardet s'est refait aujourd'hui. Thibaut Pinot s'est bien
Thibaut
refait.
Thibaut Pinot s'est bien refait aussi. C'est vrai qu'on a tellement parlé de lui depuis le début qu'il faut aussi dire quand ça va bien.
Ben oui, non, mais c'est logique. C'est notre devoir, dirons-nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a accompagné le groupe Maillot Jaune. Il n'était pas étincelant, mais sur ce qu'on a vu ces deux derniers jours, c'était presque une résurrection. Donc oui, Thibaut Pinot revient, donc dans la tête ça va aller beaucoup mieux pour lui, pour ses directeurs sportifs et pour ses équipiers aussi. Donc ça va remettre un petit peu de baume au cœur dans toute cette équipe FDJ. C'est également vrai pour l'équipe AG2R avec Bardet qui retrouve lui le sens de la course. Malheureusement pour Perrault, ça fait 3 jours que ça dure. Là ça va être plus compliqué. Et puis bon, on a les petits malheurs de Barguil qui a encore perdu du temps. Et puis aujourd'hui, bon, ce qui devait arriver arriva. Tony Galopin a été obligé de laisser partir. Mais bon, où on est un vrai grimpeur racé et on peut être présent tous les jours, où on est un grand champion et on peut l'être un jour, deux jours, mais 3 jours, ça ne le fait pas.
Merci beaucoup, Cyril. On te retrouve à 19h avec Christophe Cessieux, avec toute l'équipe.
Mais with the pleasure.
Ah ben décidément, c'est tous les soirs. Hein, ce froum, il est partout. Merci
beaucoup. Ah oui,
beaucoup.
Ça froum de trop. Voilà. Même nos neurones, nous, ils ont du mal à suivre.
Merci beaucoup, Cyril Guimard. À tout à l'heure, 19h. Alors maintenant qu'on a bien pris la pluie dans les Pyrénées, on est immunisé. On peut aller à Londres pour le quart de finale de Coupe Davis, Grande-Bretagne, France, au Queens. Sarah Pitkowski va tout nous dire après le tirage au sort. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h31, c'est l'Intégral Tour jusqu'à 21h et c'est le moment de défier les Britanniques sur leur gazon du Queen's, quart de finale Grande-Bretagne, France à partir de demain.
RMC Coupe Davis, quart de finale Grande-Bretagne, France.
Bonsoir Sarah Pitkowski.
Bonsoir.
Alors le tirage au sort a eu lieu et une petite surprise quand même, Arnaud Clément a choisi Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga pour les simples, pas de Richard Gasquet alors qu'il vient d'aller en demi-finale à Wimbledon. C'est étonnant.
Oui, ça peut paraître étonnant, mais après avoir étudié tout ce qui s'est passé cette semaine un peu plus en détail, il y avait quand même quelques éléments annonciateurs. Déjà, on a tardé à voir Richard Gasquet avec l'équipe de France. Il n'est arrivé que mardi. Et puis... il semblerait qu'il ait été assez discret, presque fuyant. Donc peut-être qu'effectivement, Richard n'avait pas récupéré en tout cas son tournoi de Wimbledon et que et voilà qu'il ne voulait pas se montrer et que ça annonçait déjà qu'il ne se sentait pas prêt pour démarrer vendredi.
Alors, on va justement écouter la réaction de Richard Gasquet quand il a appris, enfin lui, il devait le savoir un petit peu avant nous, qu'il ne disputerait pas de simple demain.
C'est Arnaud qui décide. Arnaud, voilà, veut faire jouer Joe et Gilles. Donc il y a aucun scandale à ça. Moi, je suis pas blessé en tout cas. Et en tout cas, sincèrement, il y a pas de quoi s'exciter par rapport à ça. Je suis un peu touché. C'est sûr que j'ai eu un peu de difficulté après Wimbledon. C'est difficile. Il y a eu quelques bobos. Les autres d'entrée sont en grande forme. Donc il y a pas de commentaires à faire par rapport à ça. Je suis entraîné aujourd'hui. Tout va bien. En tout cas, j'espère, comme je l'ai dit, pouvoir jouer le plus vite possible et que surtout qu'on va gagner cette rencontre, quoi.
Alors Sarah, c'est Gilles Simon qui va ouvrir le bal en tant que numéro 1 contre James Ward. En gros, il n'a pas droit à l'erreur parce qu'après, c'est Tsonga Murray. C'est moins marrant de jouer contre Andy Murray.
Ah oui, effectivement, Gilles Simon n'a pas le droit à l'erreur parce que les deux points, pas gratuits, mais en tout cas les deux points qui sont acquis à l'équipe de France, c'est normalement ceux face à James Ward. Pas la petite inquiétude, mais la petite incertitude, c'est qu'on sait que Gilles a un passé un petit peu délicat avec l'équipe de France. Il a eu du mal, il a mis des années à gagner son premier simple. Donc ouvrir comme ça alors qu'il est super favori, voilà, il y aura forcément un peu de tension. Ce qui est rassurant, c'est que le ratio de victoire-défaite sur gazon, eh ben, c'est le meilleur ratio qu'il a de l'année, Gilles Simon. Il a plus de victoires que de défaites sur gazon comparé à la terre battue et à la surface rapide. Donc il a des repères. Mais il est vrai que Gilles doit mettre l'équipe de France sur les rails.
Oui, Gilles Simon qui vient de faire un quart de finale à Wimbledon, on le rappelle. Mais Andy Murray, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué, c'est le numéro 1 britannique. Il remporte des tournois du Grand Chelem, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Mais Joe Wilfried Tsonga, a-t-il une vraie chance face à Andy Murray demain?
il a une chance. Alors quand vous allez rentrer, enfin quand Jo va rentrer sur le terrain, et si Gilles a remporté son premier point, on rentre dans un état d'esprit qui est totalement différent. Peut-être avec un esprit plus conquérant du principe de dire bah finalement j'ai plus rien à perdre. Enfin, c'est pas que j'ai plus rien à perdre. Je n'ai rien à perdre, je peux tout tenter, puisque mon coéquipier a déjà fait son boulot devant. Donc il peut lâcher les chevaux face à Andy Murray. Et puis attention, on a une équipe homogène. Gagner contre Andy Murray, c'est très bien. Mais il y a aussi l'autre solution, c'est de le pousser au 5-7, c'est de le fatiguer. Parce que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne n'a qu'un joueur qui est Andy Murray. S'ils veulent gagner, ils vont peut-être devoir l'aligner en simple, en double et encore en simple dimanche. Donc on peut l'avoir à double tranchant. Même si Joe ne s'en sort pas, s'il le pousse en 5-7, on récupère quand même un Andy Murray un peu fatigué pour le double samedi. Et Andy Murray disait fort justement dans la presse qu'il n'a jamais enchaîné un match en 5-7 le lendemain. C'est-à-dire qu'il a toujours eu une journée de repos puisque ce sont des matchs qu'on joue sur les tournois du Grand Chelem. Donc allez savoir s'il y a 5-7 demain et qu'il faut rentrer à 13h sur le double samedi, physiquement c'est pas la même chose.
Ah ben voilà, on a la tactique donc pour battre la Grande-Bretagne. Merci beaucoup Sarah Pitkowski. On va suivre évidemment ce quart de finale de Coupe Davis Grande-Bretagne-France sur RMC dès demain. Les deux premiers simples, ce sera à partir de 13h30. On va quitter Londres pour le Brésil, Rio de Janeiro avec les volleyeurs de l'équipe de France.
RMC, France Olympique.
Et jusqu'où ira cette équipe de France de volley? Les Bleus ont mis à terre le Brésil et ses 12 000 supporters hier soir à Rio en Ligue mondiale Final Six. 3-7-1, net et sans bavure. Kevin Leroux est notre invité en direct de Rio. Bonsoir.
Bonjour.
Est-ce que la nuit a été bonne après cet exploit contre le Brésil hier soir?
Bah oui, bien sûr. On s'est bien reposé, on a savouré un peu la victoire, mais bon, on n'a pas pu savourer énormément, enfin trop, puisque bon, la compétition n'est pas finie, donc voilà, on s'est tous reposés, aller voir le kiné, etc. Quelques soins et hop, au dodo quoi.
Oui, en plus, bon, dès demain, il y a un nouveau match contre les États-Unis, donc entraînement encore aujourd'hui. Hein.
Ouais, entraînement ce matin, après-midi tranquille, et pour reprendre la compétition demain contre les Américains.
Alors face au Brésil, pourtant, il y a tout contre vous. Hein. Un voyage qui a duré 20 heures depuis la Bulgarie, vos bagages qui n'étaient pas tous arrivés, 12 000 supporters derrière le Brésil, et pourtant, il n'y a rien qui vous a troublé. Comment vous avez fait?
Bah, je sais pas. Écoutez, c'est vrai que pour le moment, tout nous sourit, on est sur un bon rythme, etc. Après voilà, ouais, pour dire encore, j'ai toujours pas mon sac. Hein. J'ai toujours pas reçu, je suis le dernier. Et c'est vrai que c'est pas facile. Je voulais te faire des lessives, etc. Mais voilà, tout sourit, ça se passe bien et on en profite et pour le plaisir, quoi, ouais.
En plus, pour vous, c'est pas facile de se faire prêter des vêtements, ça vous arrive au genou ou au coude si on vous prête des trucs?
Ouais, ça me fait un soutien-gorge, quoi. Mais faut que je le prenne à des joueurs qui font ma taille, mais c'est vrai que c'est pas facile, il y en a pas énormément, comme c'est plus grand de l'équipe. Mais voilà, on se débrouille, quoi.
Bon, enfin, du coup, maintenant, tout est possible pour les Bleus. Vous pouvez même être qualifié pour les demi-finales sans rien faire. Hein. Si les États-Unis battent le Brésil ce soir, et je crois même si le Brésil ne gagne que 3-7-2.
Pas forcément, parce qu'en fait, ce sera au point average et pas au set average. Après, si les Américains gagnent contre les Brésiliens ce soir, oui, ça c'est sûr que c'est fini. Ça c'est clair que c'est fini parce que les Brésiliens ont deux défaites. Mais bon, je vois mal les Brésiliens quand même perdre contre les Américains. Ouais, tout peut arriver. Hein.
Alors, une seule fois hein, dans son histoire, l'équipe de France a atteint le dernier carré comme ça. Est-ce que vous réalisez que vous êtes aux portes d'un vrai exploit ou au contraire, est-ce que vous préférez pas y penser?
Si, on réalise qu'on est à quelques victoires d'une médaille d'or, quoi. Après, c'est vrai qu'on a travaillé énormément jusque-là. Ça fait presque plus de deux mois maintenant qu'on est ensemble et on travaille dur pour arriver déjà. Bah, l'objectif était d'arriver justement au Final Six à Rio, ce qui est fait. Donc maintenant, après, voilà, c'est du plaisir. Et si on peut aller jusqu'au bout, voilà, autant en profiter. Et c'est ce qu'on est en train de faire jusqu'à maintenant.
Mais quand je vous écoute, là, vous avez l'air totalement cool, totalement serein. On dirait qu'il n'y a pas de pression, il n'y a rien qui vous atteint.
Bah, écoutez, moi, je suis assez, assez cool. Mais non, enfin, je veux dire, voilà, on joue notre jeu et on sait que ça fonctionne très bien comme ça jusqu'à présent. Donc voilà, il n'y a pas de, en fait, comme on a réussi notre objectif, si vous voulez, maintenant on fait, voilà, c'est du plaisir, quoi. Donc voilà.
Kevin Leroux est notre invité dans l'intégral tour sur RMC. Vous faites des photos d'équipes différentes à chaque match avec les Bleus. Donc là, à Rio, vous avez posé en Christ Rédempteur. Hein, c'est ça, le Corcovado.
Corcovado, ouais. Bah, en fait, on essaye de s'amuser. Ça dépend un peu de l'atmosphère avant le match. Et ça enlève un peu, si vous voulez, tout le stress quand on met un peu de rigolade dans les avant-matchs, etc. Et voilà, on essaye de faire des photos différentes à chaque fois. On va essayer de faire une photo encore différente pour les Américains. On verra. On va trouver, mais on ne sait pas pour encore.
Ouais, je vous vois bien en Statue de la Liberté, quelque chose comme ça, non?
Ouais, pourquoi pas, on y a pensé, ouais. Ça peut se faire, ouais, exactement.
En tout cas, vous avez la réputation d'être l'équipe la plus cool du monde. On voit des selfies de vous partout dans le monde, toujours avec le sourire. Est-ce que c'est ça aussi le secret de votre réussite, hein? Parce que la réussite, elle est vraiment éclatante en cette année 2015. Zéro défaite, ouais, en 17 matchs, quand même.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un bon groupe, en fait. On a un groupe assez jeune. On se connaît depuis pas mal d'années, parce qu'on est de la même génération presque, à part un ou deux qui est un peu plus vieux, mais c'est vrai que voilà, il y a pas d'histoire entre nous, tout se passe très bien, une bonne entente partout, et c'est vrai que ça fait un peu, si vous voulez, la force de cette équipe, quoi. Il y en a pas un qui est plus haut que l'autre, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, bien sûr, mais s'il y a juste un truc peut-être un petit peu moins cool, c'est que vous avez beau tout gagner cette année, ça voudra quand même pas dire que vous êtes qualifié pour les Jeux. Il faudra encore se battre. Ça vous agace pas parfois ce système-là?
Bah, c'est comme ça. C'est le pour les beaux. C'est fatigant, mais c'est comme ça. On aura juste Coupe Division après les championnats d'Europe en octobre. Et après, même les championnats d'Europe, je crois, même le premier sera pas forcément qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc on aura en janvier, début janvier, justement une qualification pour les JO à Berlin.
Bon, finalement c'est simple, en fait il faut continuer sur le même rythme que là et tout gagner, puis normalement vous serez au jeu et puis il n'y a pas de problème.
Bah, on n'a pas le choix, de toute façon si on veut y aller, ouais, il va falloir recommencer, quoi, si vous voulez.
Merci beaucoup Kevin Leroux d'avoir passé quelques minutes avec nous sur l'antenne d'RMC. On rappelle, demain 19h05, heure française, France, États-Unis, dans cette ligue mondiale de Final Six pour une place en demi-finale. Merci beaucoup Kevin Leroux.
Super, merci, au plaisir, merci à vous.
Et nous on va changer d'ambiance dans un instant, puisqu'on va passer de Rio à Moscou. On part au championnat du monde d'escrime. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h46, c'est l'intégral tour jusqu'à 21h. Rodolfir Ilitch Masounov nous attend à Moscou pour les championnats du monde d'escrime.
RMC France Olympique.
Ça te va bien, non?
Oh, j'adore.
Je t'imaginais là en costume traditionnel, là, après à entrer au Kremlin. Non.
Non, écoute, je ne m'y suis pas risqué.
Tu vas rester à la salle d'escrime, ça va être mieux comme ça.
Je suis mieux dans cet environnement-là, tout à fait.
On va faire comme ça en plus. Donc, ce sont les championnats du monde. Et ben voilà, t'es mieux là peut-être, mais pas de médaille aujourd'hui.
Et non, pas de médaille aujourd'hui. Alors, fallait s'y attendre tout de même, puisque quand on regardait les rankings mondiaux, les classements mondiaux au fleuret féminin et au fleuret masculin, c'était les épreuves individuelles aujourd'hui. Eh bien, les Français n'étaient pas des prétendants légitimes à des médailles. C'est vrai qu'on a vécu des déceptions. Erwan Lepechou éliminé dès le premier tour. Alors, chez les garçons, ils étaient quatre au départ. Il y en a un qui a tout de même rallié les quarts de finale. C'est Jérémy Cadeau. Jérémy Cadeau qui atteignait pour la première fois un quart de finale d'un championnat du monde dans sa carrière. Il a été totalement surclassé par un Russe, hein, en quart de finale. Une défaite 15 touches à 7 qui ne laisse aucun regret. Des regrets, en revanche, il y en a dans le clan français pour Isaora Tibus. Ça a été la meilleure des Françaises. Elle aussi a atteint les quarts de finale. Elle était opposée à une jeune américaine de 22 ans. Isaora Tibus n'est pas beaucoup plus vieille. Elle a un an de plus, 23 ans. Mais c'est le scénario de ce quart de finale qui laisse des regrets, parce que les deux jeunes femmes se sont livrées une vraie bataille, un vrai combat. C'était une vraie bagarre sur la piste. Honnêtement, c'était un combat très chouette à regarder. Oui, mais voilà, à la fin, c'est l'américaine qui a gagné. Et sur le score cruel de 15 à 14, les deux jeunes femmes étaient à égalité 14 partout. La Française, Isaora Tibus, a commis peut-être une petite erreur. En tout cas, elle a laissé son adversaire venir. Et forcément, ça laisse des regrets à l'entraîneur du collectif du fleuret, Franck Boisdin, que l'on écoute.
Franchement, il n'y a rien à lui reprocher. Elle s'est battue, elle est revenue, elle a pas baissé les bras. Non, elle a fait preuve de caractère, ça. Il y a pas de doute. Mais ouais, effectivement, bah oui, t'as de la déception, parce que quand tu passes près comme ça, bah Ouais. Tu refais le film du match et tu te dis, ouais, il y a peut-être des moments où elle aurait pu faire la différence, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Alors, Rodolphe, là, il y a des regrets, c'est vrai. On en est à 3 jours de compétition. 2 médailles pour l'instant, 2 médailles en argent. Qu'est-ce qu'on en tire comme bilan? C'est mitigé?
Voilà, c'est mention passable, on va dire ça comme ça. C'est moins bien que l'année dernière. Il y avait eu 3 médailles en individuel, dont.
Oui, parce que je me rappelle qu'avant le début de la compétition, tu m'avais dit non, mais ça y est, là, ils sont à nouveau au top partout. Bah.
Non, j'ai pas dit qu'ils étaient au top partout. J'ai dit que l'escrime française avait relevé la tête. Il faut se souvenir qu'il y a 2 ans, au championnat du monde 2013 à Budapest, il n'y avait eu aucune médaille en individuel. Il faut se souvenir que l'année qui avait précédé les Jeux Olympiques, il n'y avait eu qu'une seule médaille en individuel. Donc, le bilan est plutôt correct. En tout cas, c'est ce que veut retenir le directeur technique national, Christian Peters.
C'est pas mal, parce qu'on est 2 médailles, ça reste dans la position correcte. On reste dans les statistiques. Donc, c'est pas ce que je souhaite, mais on reste dans les statistiques. Les résultats d'ensemble sur l'individuel sont plutôt corrects et on attend beaucoup de l'équipe. On attend beaucoup de l'équipe.
Alors justement, ces épreuves par équipe, ça va être demain, ça a même commencé aujourd'hui, hein, Rodolphe. Plutôt
oui,
pas mal commencé d'ailleurs.
Ouais, c'est la nouveauté de ces Mondiaux 2015, c'est que les épreuves par équipe se déroulent sur 2 jours, ce qui fait que les sabreuses françaises et les sabreurs français ont dû déjà disputer des matchs aujourd'hui. Alors pour les sabreuses, il n'y en avait qu'un, parce qu'elles sont têtes de série, elles ont battu assez facilement le Kazakhstan. C'était l'occasion de revoir Cécilia Berder en piste, la première médaillée française de ces Mondiaux 2015. Elle a obtenu l'argent avant-hier en individuel. Ça tiraillait un petit peu physiquement aujourd'hui pour Cécilia Berder, mais en tout cas, la motivation et la détermination est bien présente dans l'esprit de Cécilia. Puisque demain, en quart de finale contre la Pologne, eh bien les Françaises vont jouer très gros. En cas de victoire, elle fera un grand pas vers les Jeux Olympiques de Rio. C'est ce que nous explique Cécilia Berder.
Alors on sait que c'est un match primordial parce que c'est face à une nation européenne et notre objectif c'est d'être dans les 2-3 meilleures nations européennes et même au niveau mondial d'être dans les 4 meilleures nations mondiales. Donc si on passe ce premier tour, on s'ouvre en grand les portes des Jeux Olympiques. Donc c'est des matchs qu'on adore, c'est pour ça qu'on fait de l'escrime. Ça va être tendu, ça va être âpre, il va y avoir du sueur, il va y avoir du sang. Et voilà, ça va être un match serré, chaud, et voilà, on va voir qui c'est qui a le meilleur caractère, quoi, clairement.
Et ben voilà, comme ça c'est dit.
Elle n'en manque pas, elle n'en manque pas de caractère.
Bon, en ce moment, il vaut quand même mieux être sabreuse que sabreur. Parce que sabreuse, déjà, il y a eu une médaille en individuel, il n'y en a pas chez les sabreurs, et eux, en plus, ils n'ont même pas d'équipe aux Jeux Olympiques, hein, parce que ça tourne, c'est ça?
Exactement, c'est la fameuse rotation des armes parce que pour le moment le CIO ne veut que 10 épreuves à l'escrime aux Jeux Olympiques. Or, en théorie, il devrait y en avoir 12, donc à chaque Olympiade, eh bien, il y a 2 armes qui sont punies. Pour 2016, ce seront donc les sabreurs messieurs et les fleurettistes dames. Ça veut dire que cette compétition demain compte pour du beurre ou presque. En tout cas, on a demandé à Vincent Hangstedt, le plus expérimenté des sabreurs français, comment on se remotive quand on est passé à côté de l'individuel et qu'il n'y a même pas de qualification olympique à aller chercher. Vincent Hangstedt.
Bah c'est vrai que c'est pas facile, c'est allé vite en plus, on a eu 15 jours entre les deux. Faut se remobiliser en se disant qu'il y a une médaille à chercher au bout, hein. Il y a un titre de champion du monde. Au niveau du sabre, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de médaille en grand championnat. On peut avoir une carte à jouer, ça va être difficile hein, sur les Coréens. Ils sont champions olympiques en titre, ils en ont mis 4 dans les 16 premiers en individuel, 3 dans les 8, c'est sûr qu'on ne sera pas favori. Mais quelque part c'est pas plus mal, ça va nous décomplexer sans doute un petit peu. On va essayer de jouer notre va-tout à fond et puis voilà, on voit les autres qui font des médailles, notamment les autres équipes qui en font régulièrement. On est un peu frustré ces derniers temps, donc on a montré un petit peu le bout du nez cette année en gagnant une Coupe du Monde. Voilà, faudra essayer de réitérer la même performance demain.
Allez Rodolphe, hein, au boulot, tu vas aider les équipes françaises à ramener des médailles, on en veut demain.
Je vais pousser, t'inquiète pas.
Voilà, parce que demain, bah, même heure, même endroit, on sera là ensemble. Et ça a intérêt d'être un petit peu différent d'aujourd'hui. Merci beaucoup Rodolphe Massé.
Le sabre féminin, il y aura une médaille demain, promis.
Ah, c'est annoncé. Hein.
Allez, spasiba et bonne soirée.
Merci beaucoup Rodolphe Massé. Dans une petite dizaine de minutes, on va retrouver Christophe Cessieu et toute son équipe au plateau de Bay pour le Tour de France. Mais pour l'instant, on va aller travailler un petit peu notre physique avec le 15 de France.
RMC Rugby 2015.
Laurent Depré qui a peut-être déjà soulevé de la fonte. Bonsoir Laurent.
Oui, mais alors vraiment très très peu, quelques grammes.
Quelques grammes, d'accord. Donc ça y est, les joueurs du 15 de France sont à Tignes depuis hier. Est-ce qu'ils sont bien installés, nos bleus là-haut dans la montagne?
Alors, il y a tout confort, ils en ont besoin, je peux t'assurer. Ils sont dans l'hôtel L'Écrin, un joli 4 étoiles, au bord du lac, au Val-Claré, au pied de la descente du glacier, plus de 2100 mètres d'altitude. Tout le monde est aux petits soins pour eux à l'hôtel. Parce qu'en dehors, c'est pas des soins, ça s'appelle de la torture physique. C'est insensé. C'est des scènes de conditionning, des scènes de course à des navettes à faire jusqu'à épuisement. Et avec en plus, pour évidemment travailler sur la cohésion, s'il y a un faux départ ou s'il y a un joueur qui triche et ne va pas jusqu'à son plot en termes de fréquence et de distance, c'est une navette de plus pour tout le monde. Il n'y a pas une oreille qui bouge, tout le monde est super discipliné. On nous a changé l'équipe de France, Virginie.
Mais parce que moi, je pensais naïvement qu'ils avaient beaucoup, beaucoup bossé à Marcoussis et que là, c'était un petit peu la récré. Donc, ce n'est pas du tout ça. Hein.
Oui, alors en rugby, il y a des entraîneurs, on en a tous connu quand on a joué, qui vous disaient « à 100% dans les vestiaires et quand on rentre sur le terrain, on accélère ». Eh bien là, c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à Marcoussis, ça a été un avant-goût de ce petit enfer physique qui leur est préparé ici en altitude. Et il va y avoir une jolie glacier à plus de 3200 mètres d'altitude. Et là, il y aura encore moins d'oxygène et il y aura les mêmes efforts à répéter. Ils sont en train vraiment de leur forger une carapace, c'était les mots même de Julien Deloire, de leur forger aussi un esprit d'équipe parce que dans la souffrance, bah, on souffre à plusieurs, on apprend à se rapprocher. Si seulement il n'y avait pas ce passage de 36 à 31 qui trotte dans les têtes, tout serait parfait.
Et tu les vois quasiment fondre physiquement? Tu vois des joueurs se transformer déjà depuis le début du stage?
Par rapport à l'arrivée, par rapport à ce que l'on a pu voir avec Wilfried Templier et les envoyés spéciaux d'RMC sur les phases finales du championnat, Oui. Pas depuis le début du stage, mais par rapport à ce que l'on a pu voir, des abdominaux, des deltoïdes, des dorsaux, tout ce que tu veux, bref, de la musculature, oui. Les garçons sèchent, les garçons changent, effectivement, et c'est vraiment avec le travail, le développement personnel, et on voit des joueurs qui progressent, là aussi, à vue d'œil. Un Johan Maestri marche sur l'eau, sur tout ce qui est test de navette. Il est deuxième ligne, c'est un géant de près de 2 mètres pour 125 kilos. Il est au niveau des meilleurs troisième lignes. Vraiment extraordinaire.
Bon alors, on a bien compris, ils font beaucoup de physique. Est-ce qu'ils jouent un peu au rugby aussi ou pas?
Alors là, évidemment, il y a le bâton, il y a la carotte, si bien que ce qui d'habitude est leur métier devient la récompense et ils retrouvent leur âme d'enfant parce que quand il y a le ballon, là on voit François Trinduc par exemple, Frédéric Michalak ou encore Rémi Thalès, bref la charnière, tu l'auras compris, qui sont sur le terrain, ils viennent pourtant d'en baver, d'en transpirer, presque d'avoir les poumons collés et là avec une grande banane, eh bien, ils s'amusent à taper des drops, des renvois et ils continuent à jouer au rugby avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir.
Laurent, tu as également parlé avec Philippe Saint-André, le sélectionneur de ce 15 de France, et tu lui as demandé quel était son but pour la Coupe du Monde.
Le but est de surprendre. Le but, c'est de vous surprendre pendant la Coupe du Monde, c'est ça le but. Bien sûr qu'on ne veut pas rentrer dans de la routine, donc automatiquement, on change beaucoup les doses d'entraînement, les activités, pour surprendre les joueurs, pour que ça ne soit pas routinier, pour qu'ils... Bien sûr qu'ils en bavent, et heureusement, mais qu'ils prennent aussi du plaisir et que ça soit différent en permanence. Ce stage est très important. On aura 48 heures la semaine prochaine où on partira ensemble. Voilà, il y aura plus de téléphone, il n'y aura plus rien du tout pour encore avoir plus de cohésion collective.
Allez, privé de téléphone en plus. Merci beaucoup, Laurent Depré. On va te retrouver.
Juste...
Oui?
Juste pour te dire que là, la séance est terminée. À ton avis, qu'est-ce qu'ils font?
Ils
rentrent en VTT. Ah bon. Et bon. Puis après, ce sera soins, massage, étirement. Je pense qu'à 22h, il n'y aura plus personne avec les yeux ouverts. Allez, on y retourne.
Merci beaucoup, Laurent Depré. On suit toute la préparation du 15 de France pour la Coupe du Monde ensemble. Là, c'est dans les Alpes que ça se passe. Les Alpes, Christophe Sessieu, il sera la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il est dans les Pyrénées, hein, Christophe.
Exactement. Nous sommes dans les Pyrénées. Dernière étape des Pyrénées aujourd'hui au plateau de Baye. Mais c'est vrai qu'on a hâte d'être dans les Alpes, Virginie, pour savoir s'il peut encore se passer quelque chose dans ce Tour de France. Le scénario du jour vous laisse-t-il encore des espoirs pour les Alpes? Ce sera l'un des thèmes de nos débats qui vont débuter juste après les infos de 19h. Et puis nous allons revenir également sur la résurrection de certains coureurs français, en l'occurrence Thibaut Pinot et Romain Bardet. Là aussi, est-ce que c'est un nouveau tour qui commence pour ces deux-là? Voilà, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Et puis la deuxième édition de RMC Sport, ce sera également juste après les infos de 19h. A tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.